C'est une accélération, puisque on avait pour coutume de lier la date du 30 juin, qui marquait le retour de l'Irak à une souveraineté que d'aucuns aux États-Unis présentaient déjà comme limitée, à la mise en place de ce gouvernement intérimaire. Le fait qu'il soit formé dès aujourd'hui, alors qu'il y a quelques heures on en semblait très loin, effectivement peut surprendre, étonner et indiquer que très probablement les relations entre le Conseil transitoire et l'administration d'occupation n'étaient plus très simples.
Alors, les États-Unis se disent satisfaits, l'ONU également, tout le monde semble content. C'est un succès pour qui, si c'en est un ?
Il faut d'abord vérifier que ce soit un succès. Quelles seront les relations entre les États-Unis et ce nouveau gouvernement ? Personne ne peut véritablement le dire aujourd'hui, surtout que les relations entre les États-Unis et M. Krasilauer ne sont pas des meilleures. Quels avantages les Nations Unies peuvent en tirer, elles qui semblent, de par la constitution même de cette nouvelle institution, davantage impliquées dans le fonctionnement de l'Irak d'aujourd'hui? Là aussi, il est difficile de le savoir, de l'établir.
Mais est-ce qu'on peut en déduire que les États-Unis semblent pressés de se désengager?
Il y a plusieurs signes qui peuvent effectivement le laisser croire. Un désengagement des États-Unis d'ici et de la prochaine élection présidentielle me paraît très improbable, car ce serait de la part de George Bush une sorte d'aveu d'échec. Qu'il y ait la volonté d'une part d'impliquer davantage les Nations Unies et de partager avec les Nations Unies les incertitudes, les insécurités, les coûts qui menacent actuellement la coalition, c'est à peu près évident. Qu'il y ait la volonté des États-Unis de solder les comptes du Conseil de gouvernement transitoire qu'ils avaient mis en place en juillet dernier et dont ils se séparaient, effectivement une volonté des États-Unis de modifier la mise, de reprendre en quelque sorte le jeu, mais est-ce que le jeu sera suffisamment efficace pour les placer dans une situation plus confortable? Ça, on peut encore en douter aujourd'hui.
Aujourd'hui, tout le monde présente ce président comme l'homme de la situation. On dit qu'il est très représentatif de l'Irak.
C'est peut-être là justement qu'il convient de se méfier le plus. On est quelque peu troublé de voir à quel point certains pensent pouvoir simplifier le jeu irakien en établissant qu'il y a là trois communautés. La réalité, c'est que personne ne sait exactement à quoi ressemble la société irakienne aujourd'hui, quels sont ses véritables clivages, quelle est l'importance du poids communautaire par rapport à d'autres poids, à qui et à quoi s'identifie le peuple irakien à un moment où il faut bien admettre que l'anti-américanisme et l'anti-occidentalisme semblent être des vecteurs d'identification beaucoup plus déterminants que telle ou telle faction.
Parmi les tâches principales, il y a bien sûr l'économie et la sécurité. Pour l'instant, on voit mal comment ce gouvernement pourrait affronter ces deux dossiers.
Oui, parce que d'une part, ces deux dossiers sont liés. L'économie pétrolière irakienne fonctionne aujourd'hui au cinquième de sa possibilité, tout simplement parce que l'insécurité est telle qu'il est difficile d'aller au-delà. D'autre part, ce qui est déchiré en Irak aujourd'hui, c'est le contrat social. Il va falloir reconstituer une société d'en haut, et surtout lorsque ce haut est étranger, c'est une gageure sur laquelle plus grand monde ne saurait miser aujourd'hui.